Et on accueille Didier de Lynx. Bonjour Didier.
Bonjour.
De Lynx, auteur de nombreux romans policiers à succès. Votre dernière parution n'est pas un polar, mais un essai qui trouve sa résonance en ce moment dans la perspective des municipales dans un mois. Ça s'appelle « Municipal, banlieue naufragée » qui paraît dans la collection Tract de chez Gallimard. Et cette banlieue naufragée, vous prenez l'exemple de la Seine-Saint-Denis que vous connaissez bien, c'est là où vous avez toujours vécu, votre famille aussi, jusqu'au ras-le-bol, jusqu'à ce déménagement. Après 70 ans passés dans cette banlieue, d'ailleurs vous dites que ce n'est pas un déménagement, mais une fuite. Qu'avez-vous donc cherché à fuir en quittant la Seine-Saint-Denis ?
Une disparition d'un esprit qui était basé sur l'élévation des citoyens, et d'un seul coup s'apercevoir que certaines villes de Seine-Saint-Denis, simplement celle où j'habite, celle où je suis né, qui est à côté, d'autres comme ça, il y avait eu des collusions en 2014 pour conserver ou conquérir le pouvoir, et ces collusions, j'ai pu les vérifier parce que je connais tout le monde, et on s'aperçoit des conséquences, c'est-à-dire des trafiquants de drogue qui sont promus à la direction de services municipaux, et on voit ce genre de choses, un communautarisme où une liste choisie par la mosquée va avoir trois personnes qui vont être placé en tant que maire adjoint. Et ça, toutes ces choses-là, tous ces accommodements avec les voyous et puis avec des puissances spirituelles, ça a des conséquences, et les conséquences, on les voit très rapidement dans les mois qui suivent.
On les voit parce que donc c'est d'abord le clientélisme qui amène le communautarisme. On va parler du communautarisme plus précisément dans un second temps. Juste sur les collusions que vous évoquiez, vous avez évoqué des recrutements parmi les services municipaux, parmi les voyous, parmi des réseaux islamistes aussi.
Surtout des voyous, que les premières choses que j'ai constatées, c'est dans une autre ville comme ça, où le maire pouvait plus sortir de sa mairie sans être houspillé les citoyens qui étaient mécontents, parce que la ville était livrée aux promoteurs, et il était entouré, après il s'est entouré de gardes du corps qui étaient des boxeurs professionnels, et ces boxeurs professionnels se sont retrouvés chefs de service.
C'était à Bagnolet, ça
c'est à Bagnolet, et la police s'est intéressée à ces boxeurs. Ils sont rentrés dans les services qu'ils dirigeaient, ils ont trouvé 11 kilos de cocaïne, une douzaine d'armes de guerre, des gilets pare-balles et tout. Les gens étaient condamnés à 8 ans, 10 ans. Le syndicat CGT de la ville s'est posé des questions sur le recrutement, en se demandant à l'administration, est-ce qu'ils savaient ou est-ce qu'ils ne savaient pas. Et ils se sont aperçus que le directeur général de l'administration de la ville de Bagnolet n'avait pas les qualifications pour être DGS, directeur général des services. Ils lui ont fait un procès et le type a été viré, le maire a été obligé d'annuler son ordre de nomination. Et ce personnage, normalement, à mon avis, il doit aller à travailler dans des villes, au hasard, Levallois ou Corbeil-Essonne, il se retrouve directeur de la campagne pour gagner les élections municipales de 2014 à Aubervilliers, pour soutenir le gendre de Jacques Ralit, qui prenait la succession de son beau-père. Et on s'aperçoit que les gens qui ont fait la campagne sont des gens, je les connais tous, je les connais vraiment, sont des voyous.
Éric Delvaux le rappelait tout à l'heure, vous avez vécu à Aubervilliers avec votre mère dans les années 60, c'est donc une matrice pour vous, c'est aussi un endroit qui vous a fait. Est-ce que vous auriez été l'écrivain que vous êtes aujourd'hui si vous aviez vécu ailleurs ?
Absolument pas. C'est-à-dire que, comment, je suis né en 1949, et quand j'ai eu 14-15 ans, il y a eu un événement incroyable, un ovni qui est descendu sur Aubervilliers, le théâtre de la Commune. Mmh. Et tous, moi j'habitais à 200 mètres, on passait nos soirées au théâtre de la Commune. Je sais pas si vous voyez, on vendait les billets de théâtre au porte-à-porte pour des pièces de Bertolt Brecht. Mmh. Et on descendait de la cité à 40 ou 50 pour aller voir...
Grand Peur et Misère du Troisième Reich.
Non, La Mort d'un Commis Voyageur avec Claude Dauphin. La première du film de William Klein.
Il y avait beaucoup d'ouvriers à Aubervilliers.
Énormément.
Il y avait une solidarité ouvrière.
Il y avait les syndicats, il y avait tout ce qu'ils appelaient les associations de masse, et ainsi de suite. La ville était quadrillée par tous les aspects de la vie étaient pris en charge par des associations qui appartenaient plus ou moins au Parti communiste.
Mais on arrangeait les bidons à l'époque.
On arrangeait les bidons.
Justement, sur cet aspect précis, vous parliez de collusion aujourd'hui entre les voyous et les politiques dans ces banlieues, il y a quelques décennies, on ne respectait pas non plus toujours les codes, mais vous dites dans votre livre que c'était pour la bonne cause, c'était pour sauver de la misère, en gros.
C'était, on ne traitait pas les gens en clients, on les traitait en pauvres. C'est-à-dire, on savait que les gens avaient des difficultés, on les connaissait intimement et tout, il y avait des alertes par toutes les associations, et même si c'était pas tout à fait dans les clous, comme ça, on arrangeait les bidons, c'était l'expression à m'y rester. Aujourd'hui, ça a été un abaissement, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement plus personne qui est inscrit sur les listes électorales, plus personne, il y a 70% d'abstention, le maire élu dans ces conditions-là, représente 5% de la population. Ouais. Et il démissionne au bout d'un an et demi, tellement les pressions des voyous sur lui sont tellement fortes. Donc la démocratie a disparu et les gens sont acculés, ils sont obligés d'aller au guichet de la mairie.
Un autre exemple sur ce clientélisme que vous décrivez dans ces villes, ça passe aussi par exemple par le contrôle de l'office public des HLM.
Bah oui, là, c'est un endroit stratégique pour les élections, pour le clientélisme. Et par exemple, le personnage qui était venu de Bagnolet, qui a fait la campagne, ensuite, ce personnage-là, normalement, aurait jamais dû être réintégré, à mon sens, dans l'administration communale. On a essayé de le mettre en place au HLM, parce que là, il y a véritablement la préparation des élections d'après, grâce aux faveurs que l'on peut faire. Et les gens des HLM se sont totalement opposés à cette nomination. Et le responsable de l'administration centrale d'Aubervilliers, qui était un type très très bien honnête, qui résistait, il a été obligé d'être à la retraite d'office. Et ensuite, c'est ceux qui avaient gagné qui se sont installés aux manettes. Moi, j'habitais à 200 mètres de la mairie. Je me lève le matin et je suis confronté à tous ces gens. C'est-à-dire que je me disais, si j'habitais à Levallois, ce serait pareil. J'habiterais à côté de la mairie de Levallois.
C'est-à-dire dans les municipalités de droite.
Hein, de droite.
Quand vous dites Levallois, quand vous dites.
Et je verrais comment le clan du maire et de la mairesse, comme ça, rire aux éclats, monter dans les voitures de fonction. Ça vous bouffe la vie. Dès le matin, vous êtes confronté à un spectacle qui vous détruit pour la journée.
Mais là, vous avez l'impression de trahir quelque chose en partant.
Non, non. Comment ceux qui ont trahi.
Non, mais vous, en partant, en quittant Aubervilliers.
Non, c'est une douleur. C'est-à-dire que. Comment.
C'est la ville qui m'abandonne, écrivez-vous dans ce livre.
Mon grand-père a été déserteur pendant la guerre de 14-18 et tout. Il est resté avec des faux papiers qui lui ont été donnés par un de ses copains d'Aubervilliers qui s'appelait Cadeau. Et il a vécu.
Et votre arrière-grand-père aussi qui avait déserté l'armée belge.
Ouais.
C'est ça,
mais
cette famille.
Il a vécu en clandestin dans ces trucs. Et quand je me balade dans la ville d'Aubervilliers, de Stein, de Saint-Denis et tout, je repense. Il y a ces ombres qui m'accompagnent. Mon beau-père, il était dans les brigades internationales, dans la colonne anarchiste à Scaso pendant la guerre d'Espagne. Il était d'Aubervilliers, c'était un antifasciste italien. Et donc, il y a tout ça qui m'accompagne. Et puis les miens, ils sont dans ces cimetières.
Votre dernier livre, donc.
Donc, il y a quelque chose de très violent hein, dans ce qui se passe.
Didier Deninx, municipal, banlieue, naufragé, c'est votre dernier livre qui sort chez Gallimard. Alors, vous l'avez dit, hein, l'un des points de bascule vers le communautarisme, vous l'avez identifié dans cette campagne de 2014, ce sont les dernières municipales, et vous laissez entendre dans ce livre que des candidats à l'époque devaient faire une sorte d'allégeance à la mosquée d'Aubervilliers. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Tout simplement, il y avait une association très puissante qui s'appelle l'Association des musulmans d'Aubervilliers qui a organisé une sorte de concours de passage des listes à la mosquée comme ça. Ils ont choisi ensuite la liste qui répondait le mieux à leur demande et ils ont eu trois personnes en position de maire adjoint sur la liste après cet examen de passage. Mais il y a bien pire. Je le raconte à Saint-Denis, il y a quelqu'un que j'observais depuis 2012 parce qu'il avait écrit une chose absolument abominable. Quand Mohamed Merah avait assassiné des enfants juifs dans une cour d'école maternelle, il a fait un tweet et ce tweet, il m'a alerté. Je me suis dit, mais comment on peut écrire ça? Il a dit, il y a quelqu'un qui lui demande, tu fais quoi ce soir? Il dit, je suis en mode hommage, j'arrête tout ou on va me dire que je ne suis pas touché, pas ému, du coup, je vais m'entraîner à pleurer. Et ce personnage-là, je l'ai suivi. Il est devenu maire adjoint, responsable de l'égalité. Et après, sur ses tweets, ça a été un torrent de choses de ce genre-là. J'ai tout conservé en capture d'écran. Et pour dire que c'est pas quelque chose de local, c'est la personne qui a organisé la marche contre l'islamophobie, comme en novembre 80... dernier, ah oui. Où les gens criaient Allah Akbar, et où il y avait tous les responsables de gauche. C'est-à-dire, on peut pas défiler à l'appel de quelqu'un qui a les yeux secs, mais quand il y a des enfants qui sont...
Sauf que personne ne savait ce que vous savez.
C'est dans la presse, il suffit de se renseigner un tout petit peu. Il y a quelque chose qui me heurte au plus profond, c'est-à-dire que abandonner ce territoire, c'est parce qu'il est entre les mains de gens qui ont cette violence dans l'énoncé. Quoi.
En quoi les gauches locales dans ces territoires que vous décrivez ont-elles été complaisantes localement avec les pulsions communautaires que vous pointez dans votre livre?
C'est pas partout pareil. Par exemple, une ville de gauche comme Montreuil, il n'y a pas ces phénomènes-là. Une ville que je connais bien dans le Val-de-Marne, Fontenay-sous-Bois, il n'y a pas du tout ce genre de dérapage. On voit que ces dérapages-là, ils ont eu lieu à Bobigny, ville de droite, ils ont eu lieu à Aubervilliers, ville de gauche et tout. C'est la désaffection. C'est dès l'instant où il n'y a plus personne qui vote, où les bureaux sont vides et tout, il y a la tentation, les élections se font à une ville de 120 000 habitants comme Saint-Denis, ça se décide à 150 voix. Donc si on a un matelas de 500 voix, on arrive à faire la différence, et donc on va s'adresser aux communautés les plus puissantes. Les communautés les plus puissantes, il y a celle-ci sur des bases philosophiques, et puis il y en a d'autres sur la base de l'argent, c'est-à-dire les dealers. Donc on a des aspects de pouvoir avec lesquels on peut négocier.
Didier Denynx, vous s'y attachez au PC qui est le ciment d'une certaine société, c'est le mot que vous employez. Vous avez été déçu par lui et vous l'avez quitté en 1981. Pourquoi ?
Alors, j'avais quitté le PC en 81 pour autre chose, c'est que j'avais un dirigeant du PC qui m'avait demandé, sous le sceau de secret, de voter Valéry Giscard d'Estaing pour faire barrage à François Mitterrand. Et j'ai dit, je veux pas devenir schizophrène. Moi, mon engagement, il est dans la clarté. Ce qui fait que je me suis aperçu que c'était quelque chose en Seine-Saint-Denis qui était assez large comme ça, donc j'ai pris mes distances sur le mensonge. Et là encore, on est dans le mensonge, c'est-à-dire que mon engagement, je ne le renie pas, j'ai toujours les mêmes idées, même si le côté noir anarchiste prend de plus en plus d'importance, c'est-à-dire cette méfiance du pouvoir et comment le pouvoir détruit une partie de l'innocence des gens, mais je suis toujours pour une société qui est basée sur l'égalité. Je pense que dans le triptyque de la République, le mot le plus important pour moi, il reste le mot égalité. Et quand on traite les gens en clients, on détruit l'égalité, c'est-à-dire le point d'ancrage de tout mon positionnement politique depuis toujours.
Du clientélisme vers le communautarisme municipal banlieue naufragé, donc le titre de votre dernier livre, Didier Denynx. Emmanuel Macron prépare un plan de lutte contre le communautarisme. Il commencera à en parler mardi prochain, ce sera à Mulhouse, et un plan qui pourrait passer par un renforcement de la surveillance de l'influence salafiste dans les associations sportives notamment, une reconquête républicaine dans les territoires ghettoisés. Est-ce que c'est de nature tout cela à répondre, selon vous, à ce que vous avez vu s'installer sous vos fenêtres depuis quelques années?
Je pense, oui, l'État a une responsabilité, là, que ce que je raconte comme ça s'est fait sous les yeux des administrations de contrôle, des préfectures et ainsi de suite.
On a laissé faire, vous voulez dire?
Oui, on a laissé faire parce que les situations sont tellement fragiles. Le film Les Misérables le montre vraiment. Pour moi, c'est pas un film, c'est un documentaire mis en scène. Et c'est tellement fragile, les gens ont peur de ce qui s'est passé en 2005, ça a brûlé et tout. Et des villes comme Aubervilliers ont été épargnées parce qu'il y avait encore les réseaux de solidarité qui existaient. Là, ils n'existent plus. Quand je vous dis qu'on trouve 12 armes de guerre dans les services municipaux et tout, ils le savent. Donc il y a une fragilité de territoire. Donc
c'est le communautarisme aujourd'hui, c'est le modèle américain, ce n'est pas le modèle français. Vous pensez aujourd'hui que nous n'échapperons pas en France au communautarisme?
Cette pression-là, elle est de plus en plus forte. Par exemple, à Saint-Denis, c'est là qu'a eu lieu le congrès constitutif du Parti des Indigènes de la République, qui est pour moi un parti raciste, homophobe et antisémite, avec la complicité de la municipalité. Et c'est devenu une place forte. Et donc, on voit qu'il y a des points d'appui comme ça qui se font. Il paraît que, j'ai pas pu le vérifier, que dans d'autres villes de Seine-Saint-Denis, il y a le même phénomène qui se développe. Pour plein de gens en France, ça veut rien dire, parce qu'ils sont pas confrontés à ça. mais il y a des laboratoires qui sont en train de se mettre en place, et donc il faut être très attentif et démanteler ce qui est en train de se mettre en place.
Un mot sur ce que vous avez évoqué en passant. Vous avez toujours dénoncé les crimes du colonialisme. Or, selon vous, ce discours indigéniste aujourd'hui, il est utilisé essentiellement à des fins victimaires. Vous ne l'entendez plus ?
Complètement, complètement. Là-dessus, il y avait véritablement une manipulation et faire en sorte. Par exemple, il y a eu des réunions qui ont été organisées dans ma ville natale, qui étaient des réunions politiques interdites aux blancs. C'est-à-dire que moi, j'arrive, je porte le fardeau du colonialisme. Après tout ce que j'ai écrit, il y a Dieudonné qui est à côté de moi et tout, et qui a la peau noire, et lui, il peut rentrer dans cette réunion. On est dans quelque chose de fou, quoi.
Votre littérature, elle a toujours été engagé, des romans policiers, des romans, des nouvelles, des essais, de la littérature d'enfance et de jeunesse aussi, et même de la BD. Est-ce que maintenant vous allez écrire autrement ? Vous allez écrire autre chose ? Qu'est-ce que vous comptez faire ?
Oui, parce que comment je suis parti, et j'avais une bibliothèque de 10 000 bouquins, ils sont dans un box, donc c'est la première fois que je me retrouve sans bibliothèque, et donc je vais commencer à écrire sans l'appui des livres, donc je pense que ça va changer mon écriture, mais je m'y mets là, donc c'est une nouvelle vie qui commence.
Et c'est quoi
Je vais retourner en Océanie, là, si le virus atteint pas l'Océanie, j'ai un projet sur le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, enfin tous ces coins-là, quoi.
Une dernière minute pour évoquer votre dernier livre municipal, Banlieue naufragée, à propos de 1983, la marche pour l'égalité des citoyens, ces citoyens qui se sentaient invisibles dans la société. Ça a été, selon vous, une occasion manquée ?
C'est l'occasion manquée. C'est-à-dire que là, il y avait des gens qui, ils étaient 100 000 dans les rues de Paris, ça a duré des semaines à travers la France, et ils exigeaient d'être citoyens. C'était une marche pour l'égalité, le mot était important. Et en même temps, il y avait ils avaient un besoin de reconnaissance de l'histoire coloniale, le 17 octobre 61, toutes ces choses-là. Il y avait toutes ces revendications, c'était éminemment politique, et c'était une adresse à la République, de dire, mais faites-nous une place dans cette foutue République, sinon la place va être prise par d'autres. Et donc là, on s'est aperçu que cette occasion manquait. Il y en a d'autres qui se sont installés sur le terrain que la République n'a pas voulu concéder à ses enfants.
Le pouvoir de la République et le pouvoir local, et d'où essentiel. L'importance essentiel. Des municipales, ces élections municipales. Banlieue naufragée, votre dernier livre, Didier Deninx. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin. Merci sur vous. France Inter, qui sort dans la collection Tract de chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée. Il est 8h39.